La voix de l'autre, à la rencontre d'une personne extraordinaire. Bonjour, la voix de l'autre aujourd'hui est celle des élèves de l'Institut de jeunes sourds de Bourg-en-Bresse. Aujourd'hui, la voix de l'autre accueille les élèves de l'Institut de jeunes sourds pour nous parler de l'Institut de jeunes sourds, de la surdité et interviewer un professionnel de l'Institut. Bonjour à Hugo, Tom et Méméthane.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, jeunes gens. Donc, Hugo, Tom et Méméthane sont des élèves de l'IJS. Ils sont âgés de 14 à 16 ans. Et ils vont nous présenter, dans un premier temps, Hugo, vous allez nous présenter l'Institut de jeunes sourds. Alors, depuis quand existe l'Institut de jeunes sourds à Bourg-en-Bresse?
Depuis quand? C'est vraiment vieux. Donc, en ce moment, on accueille les jeunes sourds de 3 ans à 20 ans. Et à l'époque, ils ont créé l'école Institut de jeunes sourds en 1847, les trois jeunes sourds à Provence-Brou, les sœurs.
À la Providence de Brou, oui, d'accord. Les religieuses accueillaient des jeunes filles sourdes.
Voilà. Et en 1er juillet 1889, les élèves arrivent dans les anciens locaux de l'école normale, les sœurs de Saint-Joseph, rue du lycée. Depuis de cette date, l'école s'est développée dans ces locaux, il y a des mœurs encore aujourd'hui. Et les garçons sont arrivés en 1964. Et voilà.
D'accord. Et ils y sont toujours, les garçons. Oui. Vous en êtes la preuve. Tout mélangé, c'est mixte, l'Institut de jeunes sourds. Il y a des filles et des garçons sourds. Très bien. Merci beaucoup, Hugo, pour cette présentation de l'IJS.
De rien.
Vous y êtes depuis longtemps, vous-même?
Je suis arrivé en 2017.
D'accord. Et vous venez d'où, Hugo?
Moi, j'habite un peu au nord, donc au Trojeau, département 71.
D'accord. La Saône-et-Loire. D'accord. Donc, à l'Institut de jeunes sourds, on n'accueille pas que des jeunes sourds de l'Ain, alors?
Non, on accueille toute la France.
Toute la France.
Par exemple, il y a des personnes qui habitent à Auxerre, à Lyon... Ou à Toulouse, ou en étranger surtout aussi.
D'accord, et des personnes qui viennent de l'étranger. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Hugo.
De rien.
Maintenant, on va laisser Tom nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'être sourd.
Être sourd, avoir des prothèses, appelant, LSF oral. Autrefois, ça a été très compliqué. Le congrès de Milan, en oral pur. Et la LSF a été coupée jusqu'en 2005. Et en 2005, la LSF est revenue comme une langue normale.
D'accord. Donc ce que vous nous dites, Tom, si j'ai bien compris, c'est que du coup, les personnes sourdes ont eu de tout temps différentes manières de communiquer. La langue orale, les sourds ne sont pas muets alors, Tom?
Si, ça dépend lesquels.
Ça dépend, ils peuvent, d'accord. Et puis, donc, ils peuvent s'exprimer en français oral, ils peuvent s'exprimer en langue des signes française. Mais vous venez de nous dire qu'au congrès de Milan, le congrès de Milan, c'était en 1880, c'est ça? La langue des signes a été interdite. Et du coup, ça, c'était la méthode oraliste, c'est ça? D'accord. Et du coup, l'héritage de ce congrès, de cette interdiction de la langue des signes, elle en a mis du temps, la langue des signes, à revenir dans les institutions pour jeunes sourds.
Oui.
Et en 2005, la langue des signes, elle devient une langue, en effet, reconnue officiellement. Donc, c'est récent. Mais déjà avant 2005, à l'Institut de jeunes sourds de Bourg-en-Bresse, il y avait des personnes qui signaient. On verra peut-être ça tout à l'heure. D'accord. Et vous, Tom, vous venez d'où alors?
De Messimy, département 69.
D'accord. Voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Tom, pour toutes ces informations. Et maintenant, on interview Méméthane. Bonjour, Méméthane.
Bonjour.
Alors, Méméthane, vous venez d'où, Méméthane?
Ariona.
De Yona.
Jérôme.
Voilà, donc vous êtes de l'Ain. Un Indinois, très bien. Et alors, du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours à l'Institut de jeunes sourds?
Je suis arrivé en 2011 jusqu'à maintenant.
Oui.
Je suis en classe découverte d'orientation professionnelle.
Découverte, orientation professionnelle. Alors, ça veut dire quoi?
Bah, on découvre les métiers, on fait des stages aussi, on apprend les matières générales aussi.
D'accord, donc des stages en entreprise alors?
Ouais. Cette année, on fait 3 fois. Un stage, ça dure 2 semaines.
Un stage de 2 semaines, d'accord. Et vous avez 3 stages de 2 semaines dans l'année. Très ouais. Bien. Et vous, par exemple, vous-même, Ethan, c'est quel métier qui vous intéresse?
D'abord, je dois découvrir le métier que j'aime. Peut-être qu'il ne l'aime pas, mais on va essayer.
Eh oui, c'est l'intérêt du stage. Comme ça, vous découvrez. Mais du coup, quand vous arrivez dans une entreprise, même Ethan, vous êtes le seul sourd. Comment vous faites pour communiquer avec les autres
Ça dépend quel sourd. Moi, je communique à l'oral. Il y a des certains sourds qui communiquent en écriture, ou en oral, ou en mime.
D'accord.
Ou en langue des signes.
D'accord. Mais vous, à l'oral, ça va. Du coup, vous pouvez communiquer avec votre tuteur de stage ou les autres personnes de l'entreprise à l'oral. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Merci à Méméthan, Tom et Hugo pour toutes ces informations sur la surdité et l'Institut de jeunes sourds de Bourg-en-Bresse. Désormais, parce qu'on est curieux, on voudrait savoir comment ça se passait avant à l'Institut de jeunes sourds, mais du point de vue des professionnels. Donc, 3 autres de vos camarades vont interviewer une éducatrice de l'Institut de jeunes sourds, Emmanuelle Tisserand. À tout à l'heure! La voix de l'autre, à la rencontre d'une personne extraordinaire. On retrouve les jeunes de l'Institut de jeunes sourds pour une interview d'Emmanuelle Tisserand, éducatrice à l'Institut de jeunes sourds. Alors vont faire cette interview Summer, Johanna et Mathias. Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, jeunes gens, je vous laisse le micro. Je vous laisse interviewer Emmanuel.
Quand es-tu arrivé en JS?
Alors, je suis arrivée à l'IJS en tant qu'éducatrice en septembre 1987. Voilà. Alors, c'est vrai que j'avais même fait un petit stage en 1983. J'avais fait un petit remplacement de 3 mois. Et puis je suis repartie, j'ai fait ma formation et je suis revenue en 87.
D'accord.
Pourquoi es-tu venue travailler à l'IJS?
Alors l'IJS, pour moi, c'était pas inconnu parce que j'avais une tante qui travaillait à l'Institut. Alors à l'époque, on appelait ça, son métier, c'était jardinière d'enfants. Ce mot-là n'existe plus maintenant, c'est remplacé par éducatrice de jeunes enfants. Donc, lorsque, en famille, elle discutait de son travail et tout, c'est vrai qu'elle nous parlait beaucoup du monde des sourds. Donc, ce n'était pas une découverte pour moi. Je connaissais un petit peu.
Ok. As-tu travaillé avec les sœurs? Comment as-tu travaillé, elle, auprès des jeunes sourds?
Alors, avec les religieuses, oui, j'ai connu. J'ai connu jusqu'en début 90. La directrice était une religieuse. Voilà. Et puis, j'avais 2 collègues enseignantes qui étaient religieuses et puis une éducatrice également. Bon, je travaillais avec elle comme n'importe quel autre collègue. Hein. Il n'y avait pas bien de changement, si ce n'est que la directrice, elle, logeait à demeure à l'Institut toute l'année. Voilà.
Est-ce que c'est toujours le cas actuellement, Emmanuel? Est-ce que le directeur loge toujours à l'Institut de jeunes sourds?
Est-ce que vous pensez que le directeur loge à l'Institut? Non, ça ne se fait plus, ça, maintenant. Non, non.
Comment c'était avant un JS? Le bâtiment, le règlement?
Alors, le bâtiment, vous le connaissez tous, hein, 5 rue du lycée, c'est un grand bâtiment qui n'a guère changé depuis des années, si ce n'est qu'il a été rénové, repeint, rafraîchi et tout. Mais ça n'a guère changé. Les réfectoires au rez-de-chaussée sont toujours les mêmes. La salle de jeu, au premier étage, ce sont les classes. Un peu plus haut, l'internat, que vous connaissez bien. Donc, le grand bâtiment lui-même n'a guère changé. Le gymnase non plus. Il y a eu l'achat d'un bâtiment rue Victor Hugo. Les bambous, vous connaissez bien. La ruche également est nouveau depuis 2010. Hein, avant, c'était le pavillon. C'était un petit bâtiment rond qui accueillait tous les petits. Mais il a été détruit et puis désormais, c'est la ruche. Mais ça n'a guère changé, hein, depuis toutes ces années. Les anciens qui reviennent visiter un petit peu. Je suis sûre qu'ils ne sont pas trop déboussolés parce que ça n'a guère changé.
Ok. Est-ce qu'il y a changé chez les jeunes? Comment ils communiquaient?
Ah oui, alors ça a bien changé par contre. Hein. Lorsque je suis arrivée, moi, dans les années 80, le premier remplacement, la langue des signes, elle était interdite. Les jeunes signaient un petit peu en internat au quotidien, mais on n'avait guère le choix de signer. Et puis peu à peu, lorsque je suis revenue en 87, ça avait déjà beaucoup changé. Là, la langue des signes, elle était tolérée. Hein. Elle n'était pas encore reconnue, mais elle était tolérée, du moins dans le quotidien. Voilà. Il y avait les premiers cours de LSF aussi, pour nous les professionnels, voilà, avec des enseignants sourds qui nous apprenaient ça. Enfin, c'était souvent des collègues sourds qui nous apprenaient un petit peu le béaba de la LSF. Voilà. Là, il y a eu un grand changement. Hein. Et puis, peu à peu, ben, dès les années 2005, après, elle a été reconnue. Donc, voilà, LSF en classe aussi. Voilà. Donc ça a bien changé, oui, la communication.
Okay. Et est-ce que les jeunes, Emmanuel, ils ont aussi beaucoup changé?
Bien sûr. Alors, de par les moyens de communication aussi, moi, j'ai connu dans les années 80... la directrice qui, tous les midis, apportait le courrier aux jeunes, hein, qui restaient une semaine, parfois deux semaines, à l'internat. Donc, le courrier était distribué très officiellement durant le temps de midi.
Donc, le courrier des lettres, tu veux dire.
Les lettres, oui.
Je précise,
voilà.
Parce que tu sais, en présence de jeunes, je ne sais même pas si c'est une lettre.
Les lettres qui leur étaient adressées par leur famille et tous les anniversaires. Ensuite, on a connu le Minitel. Alors ça aussi, ça a été quelque chose qui a beaucoup changé. Il y avait une petite salle qui était dédiée pour, et puis chaque soir, les jeunes, il y avait un peu chacun leur tour, ils pouvaient appeler les familles qui étaient elles-mêmes dotées d'un Minitel et tout. Ça n'a pas duré très longtemps parce que les portables sont vite arrivés. Alors là, ça a été super hein, pour les jeunes sourds, pour vous, pour la communication, hein, ça a été génial. En plus avec les visios et tout, alors là, ça a complètement changé la communication au niveau des sourds. Vous avez toujours connu, vous d'ailleurs,
oui.
Les portables. Hein, voilà.
Ce qui a bien aidé peut-être, je ne sais pas si les jeunes veulent nous en dire quelque chose, mais qui vous a peut-être aussi bien aidé pendant le temps du confinement,
oui.
Puisque comme toutes les autres institutions scolaires, enfin médico-sociales, l'Institut Jeunes Sourds a été fermé, n'a plus pu accueillir les jeunes. C'est ça, Johanna, hein?
Oui,
du
ça.
Coup, comment Johanna, tu avais des temps en visio avec ton enseignante? Comment ça se passait?
Moi, je communiquais avec mes enseignantes en visio.
Mm-hmm.
Mais c'était très compliqué quand même.
C'était difficile,
ouais. Difficile.
Ouais. Oui, ça ne vaut pas le présentiel. Hein,
oui,
mais
oui.
Au moins, c'était une manière de ne pas couper le lien, la communication et la progression au niveau de l'enseignement.
Oui, voilà.
D'accord. D'accord. Mais alors du coup, comme ils utilisent aussi beaucoup les écrans, on a bien entendu, c'est une libération. Enfin, ça a beaucoup facilité la communication. Mais quand même, comme tous les autres jeunes, Emmanuel, on doit quand même mettre des règles pour l'utilisation des écrans à l'Institut de Jeunes Sourds.
Un peu, oui. Hein. Au départ, on laissait un petit peu les portables et puis on s'est vite rendu compte que, bah, comme tous les autres jeunes, hein, on devient vite accro à ce genre d'appareil. Donc, les portables sont déposés le lundi matin. Ça fait partie du règlement, du nouveau règlement. Hein. Ils sont déposés dans des boîtes le lundi matin. Ils sont redonnés par les éducateurs en soirée pour que les jeunes puissent voilà, en profiter un peu et remis à l'éducateur le soir avant le coucher. Voilà.
D'accord, à l'internat.
Et, ouais, mmh. Ouais, ouais.
Et c'est pas avant, je crois, l'âge de 13 ans.
C'est possible, c'est oui. Ouais,
parce que du coup, voilà, avant 13 ans, vous savez que voilà, les réseaux sociaux sont interdits. Donc du coup, voilà. Très bien. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Est-ce que vous voulez reposer une question à Emmanuel?
Non.
Non?
Non, ça va.
Ça va?
Mmh.
Très bien. Alors, on va s'arrêter là pour cette interview. Merci beaucoup, Emmanuel Tisserand.
Eh bien, de rien.
Merci de vous être rendu disponible pour répondre aux questions que voulaient vous poser les jeunes sourds de l'Institut. Alors, vous retrouverez, chers auditeurs et auditrices de Radio B, cette interview sur le podcast de Radio B, radio-b.fr, et puis sur la page Facebook de Radio B, puisque cette interview, pour être accessible aux personnes sourdes, a été filmée et qu'une interprète en langue des signes voilà, peut traduire, a traduit cette interview. Par ailleurs, on retrouvera les jeunes de l'Institut de jeunes sourds, tous les jeunes, Tom, Hugo, Mémétane, Summer, Mathias et Johanna, on les retrouvera lors de deux prochaines chroniques au cours de cette année scolaire. À bientôt! La voix de l'autre, à la rencontre d'une personne extraordinaire.